France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Juifs puis chrétiens, avec le pape pour parrain, histoire de conversion en famille. Qui sont les convertis du pape? Une aventure qui nous conduit à Rome au XVIe siècle. Au même moment, l'Europe et particulièrement la France se déchirent sur les questions religieuses entre catholiques et protestants. Mais au plus près du pape, au Vatican, ce sont les juifs qui font l'objet de toutes les attentions. Des histoires de banquiers, de ghettos, de prosélytisme et de néophytes, de pression sociale et de résistance à ces pressions. Des histoires de famille.
Habemus Papa.
Alors d'abord, ce qu'il faut imaginer, c'est que Rome est une espèce de quadrillage où des colonies entières d'étrangers viennent habiter pour venir tenter sa chance et faire fortune.
Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Un baptême ne peut en aucun cas être annulé. Votre fils est chrétien pour l'éternité.
Non !
Quand tu m'as dit que t'étais peut-être un tocard, je t'ai pas cru, mais finalement, je crois bien que c'est toi qui as raison. Faut jamais contrarier les vocations.
Est-il question de vocation ici? Nous le verrons avec vous, Isabelle Poutrin, bonjour.
Bonjour Xavier Mauduit.
Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Reims, Champagne-Ardenne, et vous êtes l'autrice de cet ouvrage, Les convertis du pape, une famille de banquiers juifs à Rome au XVIe siècle. Mais qui sont ces banquiers?
Alors, ces banquiers sont les Corcos, une famille de séfarades, donc venus d'Espagne après l'expulsion des Juifs d'Espagne de 1492. Et donc, le premier de la lignée, David Corcos, s'est établi à Rome, où existait une communauté juive formée de Juifs romains qui étaient là depuis l'Antiquité, mais aussi de Siciliens, de quelques Ashkénazes, de quelques Provençaux. Donc, une communauté assez composite. Mais les séfarades arrivaient avec quelques capitaux, avec un savoir-faire, avec un énorme capital culturel. Et ils sont devenus donc une partie très forte de la communauté, obtenant dans les années 1520 le droit de pratiquer le prêt à intérêt.
Et oui, parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose au sens où... Bon, déjà, on est dans une ville, donc les questions d'agriculture, elles ne se posent pas tellement, ils ne vont pas être paysans dans la ville. Mais c'est vrai que pour les Juifs, il y a des métiers réservés à Rome au XVIe siècle. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi.
Alors, au début du XVIe siècle, non, les Juifs, en fait, faisaient du commerce et n'avaient pas le droit de pratiquer le prêt, mais étaient avant tout des commerçants. Et puis, Rome se développe énormément au cours du XVIe siècle et on a besoin d'argent frais. Et il n'y a pas de banque pour assurer des prêts petits ou grands, etc. Et donc, les Juifs séfarades et les Juifs, plus généralement, vont remplir cette fonction. À partir de 1555, la politique de la papauté se durcit de plus en plus. Et là, c'est le moment de la fondation du ghetto de Rome, c'est-à-dire de ce quartier sur les bords du Tibre, fermé la nuit, où les Juifs sont obligés de résider et où les chrétiens n'ont pas le droit de résider. Et là, cette réclusion dans ce quartier, cette ségrégation, s'accompagne d'interdictions professionnelles. Par exemple, les médecins juifs n'ont plus le droit de soigner des chrétiens, alors qu'auparavant, les papes avaient des médecins juifs eux-mêmes.
À partir du milieu du XVIe siècle, on l'entend bien, il ne fait pas bon être juif à Rome au sens où il y a quand même des contraintes. Celle du ghetto que vous venez de nous présenter, c'est pas rien le ghetto, on peut pas sortir comme on veut. Des métiers qui sont réservés, il y a d'autres signes distinctifs.
Le ghetto est ouvert dans la journée, hein, puisque c'est aussi un lieu commerçant, puisque les gens vont chez les prêteurs mettre leurs objets en gage et faire leurs courses dans le ghetto également. Et les Juifs eux-mêmes peuvent sortir, petits colporteurs, hommes d'affaires, etc., circulent dans la ville.
La journée, d'accord.
Pendant la journée. Mais les Juifs n'ont pas le droit de posséder des biens immobiliers, donc ils doivent être locataires de leur maison. Les maisons du ghetto sont la propriété de propriétaires chrétiens, des aristocrates et communautés religieuses. Donc ça, c'est une contrainte, puisque la communauté juive, à la fin du XVIe siècle, c'est 3500 habitants sur un espace très petit. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième, c'est la restriction pour certaines professions, alors qui s'assouplit plus ou moins et qui est l'objet de négociations, de conflits aussi avec les concurrents chrétiens qui constamment, jusqu'au XVIIe siècle, attaquent les Juifs sur leurs activités. Et enfin, dernière contrainte, mais pas des moindres, les Juifs sont astreints au port d'un signe distinctif, un couvre-chef pour les hommes ou les femmes de couleur rouge, qui doit clairement les rendre reconnaissables. Et ça les rend vulnérables dans l'espace public, puisqu'ils sont soumis aux moqueries des chrétiens, étant immédiatement identifiés comme juifs.
Avec, malgré tout, beaucoup de contacts avec les autres communautés qui composent Rome à ce moment-là. Et on l'entend bien dans ce que vous dites, hein. Il y a le commerce, il y a toutes ces activités bancaires. Donc ils sont en contact, et aussi, parce qu'on parle de Rome, avec le Vatican, avec le pape, le clergé, tout cet entourage-là.
Oui, alors la communauté juive de Rome, puisqu'on parle de communauté au sens institutionnel, hein, elle est l'interlocutrice aussi des pouvoirs publics, est très diversifiée ethniquement, je l'ai dit tout à l'heure, hein, beaucoup d'origines, mais aussi socialement, on a des riches, des pauvres. Les riches sont moins riches que les chrétiens. On a un niveau de vie qui n'est pas le même. Les prêteurs, puisqu'il s'agit de prêteurs sur gage, ont une clientèle très diverse. Et j'ai pu le voir en consultant dans les archives notariales les inventaires de ces banquiers. On vient mettre au clou une paire de chausses, une chemise, mais aussi on a des cardinaux qui viennent mettre de la vaisselle en argent, en or, pour leurs besoins de liquidité personnelle. Donc, à travers cette clientèle plus sélecte, un certain nombre de banquiers ont accès à une partie de l'élite, en effet, de l'aristocratie romaine.
Oui, puis on est au XVIe siècle, on est à un moment où le monde de la banque est un monde en effervescence. On voit bien, il y a beaucoup d'argent qui passe, et j'aime beaucoup ce que vous dites là, Isabelle Poutrin, parce que il y a vraiment mettre un tout petit objet comme ça en gage, et puis le racheter au bout de quelques temps avec un intérêt, ou alors, si on peut pas le racheter, il est perdu. Et puis à côté, il y a des sommes d'argent beaucoup plus conséquentes. Est-ce que ça existe, ça, pour la papauté, par exemple, prêter des sommes plus importantes au souverain pontife?
Alors, le souverain pontife a d'autres moyens de se financer, hein, lui-même. Mais parmi les cardinaux, leur famille, leur entourage, en effet, on a le cas de Michele Ghislieri, qui est devenu ensuite le pape Pie V, qui emprunte de l'argent alors qu'il est encore cardinal et d'ailleurs inquisiteur. Et à cette occasion, il noue une amitié, une sorte d'amitié, mais il appelle ça comme ça, avec un des notables de la communauté juive qui est Elia Corcos. Et ça lui donne l'occasion, évidemment, de morigéner ce banquier en joignant de se convertir. Mais je voudrais quand même insister sur une chose, c'est que ce qu'on appelle les banquiers juifs, c'est une banque de proximité. Hein, parce qu'on a des fantasmes sur la banque juive. Et en réalité, le premier chapitre du livre met bien en place qu'on a par ailleurs des gros financiers, ceux qui travaillent sur la papauté, ceux qui ont les marchés du grain, des grosses fournitures. Et là, ce sont des Génois et des Florentins chrétiens.
Et c'est ça, les Corcos, ce sont pas les Médicis, quoi. On va pas les comparer sur ces systèmes de finance. On n'est pas du tout à la même échelle, avec ce lien qui se crée entre celui qui devient par la suite le pape Pie V et puis son banquier, un banquier juif à Rome au XVIe siècle.
Au Moyen-Âge, les grands banquiers internationaux, c'était surtout les Italiens, qui eux aussi faisaient toutes sortes d'opérations financières, mais qui avaient la possibilité, dans leur grand commerce et avec l'aide de docteurs de droit canon, de camoufler, de dissimuler, à l'aide de divers stratagèmes, l'intérêt qu'ils percevaient. Et la case qui fut réservée aux Juifs, c'était surtout la case où cette dissimulation était impossible, parce qu'il s'agissait du prêt au particulier, du prêt sur gage, et là, les subtilités du droit canon ne pouvaient pas intervenir, c'était l'usure, ce qu'on appelait l'usure patente et ouverte. Et c'est cela qui fut abandonné aux Juifs, sous le prétexte que les chrétiens ne doivent pas faire ce trafic-là, parce que, de ce fait, ils vouent leurs âmes aux flammes éternelles.
Nous venons d'entendre Léon Poliakov, l'historien de l'antisémitisme, et pas seulement de l'antisémitisme, hein, qui a étudié ces juifs et le Saint-Siège sur un temps plus long que le vôtre, Isabelle Poutrin, parce qu'ici nous avons une mise en perspective liée à la banque, c'est une chose, et à l'antisémitisme. On connaît tellement ces préjugés qui associent les juifs et l'argent. L'antisémitisme à Rome au XVIe siècle, dans cet univers-là, il est très présent. On l'entend, vous nous avez parlé de toutes ces marques discriminantes, mais... Et c'est toujours ce contraste, ce paradoxe, il y a cette proximité, notamment, on l'a dit, avec ce futur Pie V. C'est pas choquant hein, pour un haut personnage de l'Église d'avoir un banquier juif.
Non, mais de toute façon, on peut très bien persécuter une minorité d'un côté et en tirer profit de l'autre. Alors d'abord, j'ai été émue d'entendre Léon Poliakov parce que, en réalité, j'ai marché sur ses traces et j'ai même vu des archives dont il faisait état dans sa thèse sur les banquiers juifs italiens, sa thèse des années 60 qui reste fondamentale. Être juif... C'est pas tellement une question de religion au XVIe siècle. Il est acquis pour l'Église catholique qu'il n'y a qu'une seule vérité, celle du catholicisme, et que toutes les autres fois sont des croyances erronées, des sectes, hein, c'est le terme qu'on emploie, et que la supériorité des catholiques et du catholicisme doit être absolue. Mais les juifs ont leur place dans la société, alors leur place moyennant des rituels d'humiliation, d'allégeance et des restrictions. Mais ils ne sont pas des étrangers, contrairement à ce que suggérait un des sons qu'on a entendu au début de l'émission. C'est vrai que, comme disait Montaigne, Rome est une ville cousue d'étrangers. Mais les juifs de Rome sont des citoyens romains, imparfaitement citoyens parce que n'étant pas catholiques, ils ne peuvent pas accéder à des fonctions de commandement. Mais pour autant, ils sont pleinement romains, ils partagent totalement cette culture de la romanité et ils peuvent avoir de bonnes relations avec des chrétiens. Vous savez, on peut distinguer plusieurs sphères, hein, celle de la vie quotidienne où les relations peuvent être cordiales, celle de la polémique, celle... justement des convertisseurs, des prédicateurs, etc. Et puis celle de la vie civique, où les Juifs de Rome sont soumis aussi aux statuts municipaux de Rome, peuvent être jugés devant la rote, mais jugés avec équité, comme le seraient d'autres justiciables.
Devant la rote. Racontez-nous, qu'est-ce que la rote ?
Alors, la rote romaine est un tribunal peu connu maintenant, sinon pour les divorces de célébrités, mais qui était aussi connu que peut l'être la Cour suprême des États-Unis maintenant. C'était le tribunal suprême du pape en matière civile. Comme c'est un tribunal civil, il est peu étudié, parce que les historiens, on ne peut pas leur en faire grief, mais s'intéressent avant tout aux crimes. Bon. Alors que là, on a d'une part des affaires de bénéfices ecclésiastiques qui sont jugées pour l'Europe catholique hein, par le tribunal de la Rote, des affaires d'annulation de mariage, de vœux de religion. Et puis la Rote est aussi le tribunal d'appel pour les tribunaux civils de l'État ecclésiastique. Ça va du juridiction consulaire d'Ancône, là on a des questions d'assurance de navire, et puis toutes les questions de Rome, pour lesquelles c'est une source passionnante sur l'habitat, la vie des artisans, l'aristocratie, la vie des familles, et c'est un thème que j'explore actuellement dans un projet collectif.
C'est quoi la matérialité de ces archives? Ce sont des mètres et des mètres linéaires de textes qui ressembleraient à des archives notariales, au sens où on est vraiment sur du concret, des petits problèmes qui accumulaient, mais ça demandait énormément de travail, révèlent ce qu'est la vie quotidienne à Rome au XVIe siècle.
Alors, les archives de la Rote, c'est 1,5 km de linéaire aux archives apostoliques du Vatican, plus un fonds important à l'archivo di Stato de Rome, et puis un petit fonds à Pérouse également, et un autre à Bologne, qui sont inégalement conservés. Et on a aussi une multitude d'imprimés de décisions de la Rote. La Rote, bon, rendait des sentences à la fin, mais rendait des consultations juridiques qu'on appelle des décisions et qui ponctuaient la marche du tribunal. Et c'est le seul tribunal à l'époque moderne qui motivait ces décisions. Donc pour l'histoire du droit, la connaissance des raisonnements juridiques, c'est une mine. Et c'est à travers les archives de ce tribunal que, de façon totalement inattendue, je suis tombée sur une histoire de convertis.
Ce sont les convertis du pape Isabelle Poutrin et c'est celle qui va nous conduire aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Une histoire de Paris aussi, une histoire d'alliance, une histoire de famille et ça tombe bien parce que la Rote s'occupe beaucoup des mariages.
Pour refaire sa vie légalement, il faut obtenir l'annulation du mariage. Civilement, c'est presque impossible, et c'est très difficile devant le tribunal religieux de la Sacrée Rote, qui instruit un millier de dossiers par an et qui ne prend pas en considération la non-réussite d'une union. La Sacrée Rote se place sur un tout autre plan.
Monseigneur, quels sont les différents cas de nullité de mariage qui se présentent à vous et dont le tribunal de la Sacrée Rote a à connaître?
Trois différentes espèces de motifs sont invoqués pour obtenir la nullité, ou bien les cas de défaut de forme, ou bien les cas d'empêchement qui reviennent pour leur généralité d'abord aux empêchements apportés par la loi civile, auxquels on ajoute entre autres l'ordre sacré, le vœu solennel, le rapt.
Le rapt. Oui. Il semble extraordinaire qu'on puisse contracter le mariage dans les mains d'un ravisseur.
Encore actuellement, dans certaines régions, par exemple en Sicile, le cas se présente de temps en temps.
Ah, de temps en temps. Mais la plupart du temps, pour des cas de nullité du mariage, Monseigneur, il s'agit de vices de consentement.
Ce sont les motifs les plus fréquemment invoqués. Ou bien quelqu'un se refuse à admettre les enfants d'une manière absolue.
Ne veut pas avoir d'enfants.
Pas d'enfants du tout du mariage. Ou bien il exclut l'indissolubilité du mariage, ou encore la fidélité conjugale.
Quand l'un des conjoints se marie en faisant de telles réserves, l'Église considère son consentement comme non valable. Elle peut donc, plusieurs années après le mariage, en prononcer la nullité. Encore faut-il prouver ses réserves.
La Sacrée Rote évoquée en 1968 par Monseigneur Lefebvre, avec ici quelque chose d'intéressant, parce qu'on réduit ce tribunal au mariage. Et c'est vrai qu'à travers le temps, c'est quelque chose qui a préoccupé. Mais la Sacrée Rote ne s'occupe pas que de cela. Vous, Isabelle Poutrin, à la recherche des convertis du pape, et le titre donne juste envie d'en savoir plus, et ça tombe bien, merci d'être là avec nous. Vous les retrouvez, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes identifiées. Il faut donc reconstituer la généalogie d'une famille particulière, les Corcos. Elle est dure à reconstituer, cette généalogie?
Alors, cette famille, j'en ai tiré le fil à travers une décision de la Rote qui... Alors, la Rote actuelle s'occupe des mariages, mais c'est une Rote reconstituée au début du XXe siècle. La Rote, telle qu'elle existait jusqu'en 1870, avait des compétences bien plus larges. Et en particulier, pour l'état du pape, des questions de dot, de patrimoine, etc. Et donc, j'ai trouvé une décision de 1608 qui concernait une jeune fille, Flavia, qui réclamait à son grand-père le paiement de sa dot. Toute jeune fille devait avoir une dot pour se marier, et ne pas doter une jeune fille, c'était la condamner soit à la prostitution, soit à la marginalité, etc. Donc, elle demande une dot à son grand-père qui s'appelle Hugo Bonnecompagnie. Bon, très très vite, je vois qu'Hugo Bonnecompagnie est l'un des néophytes, c'est-à-dire des juifs convertis au catholicisme les plus célèbres de la Rome des années 1580 et de la fin du XVIe siècle, puisque Bonnecompagnie, c'est le nom de famille du pape Grégoire XIII, et Hugo, c'était aussi le nom que portait Grégoire XIII avant de devenir pape et de prendre le prénom de Gregorio. Et donc, je me dis, mais que se passe-t-il? Bon, et j'ai trouvé cette fois-ci les pièces manuscrites, ce qu'on appelle les positiones, qui permettent d'accéder aux preuves, aux éléments de preuve maniés par les avocats et présentés par les avocats des deux parties, puisque ce sont des procès contradictoires entre une partie contre l'autre. Et donc, dans ces positiones, on a quantité de copies d'actes notariés, de témoignages, etc., qui nous donnent un aperçu sur cette famille et sur cette réclamation de dot. J'ai ajouté à ces éléments un document que j'ai trouvé aux archives du Vatican en feuilletant un dossier, mais qui n'avait rien à voir avec ce que je regardais à ce moment-là. Mais il faut quelquefois affûter, mais qui s'appelait, bon, juif. Et comme j'avais travaillé sur les minorités religieuses en Espagne, etc., bon, ça m'a intéressé. Et là, je trouve le récit poignant de l'enlèvement de 4 enfants, où je reconnais Flavia, puisque les âges, les dates, etc. correspondaient, Flavia avec ses frères et sœurs. Bon. J'ai eu envie de creuser cette histoire, et donc dans les positiones de la Rote, cette fois-ci à l'Archivio di Stato, j'ai retrouvé l'ensemble de l'histoire familiale que j'ai évidemment reconstituée avec ensuite des journées et des journées de lecture d'actes notariés qui m'ont donné l'épaisseur de l'histoire de cette famille sur une trentaine d'années.
Passionnant, hein, parce qu'il y a un premier élément d'archive, un autre élément d'archive qui arrive par le hasard, et j'aime beaucoup ce que vous venez d'évoquer. Parfois, on sort un carton, c'était pas vraiment celui-là, mais c'est là où on trouve quelque chose, et puis après, il y a ce travail gigantesque, ce travail généalogique, déjà reconstituer la famille. On est dans les archives du XVIe siècle, ça se lit bien.
Alors oui, les archives romaines, alors autant je pense que je serais assez nulle en paléographie française, puisque je n'ai pas travaillé sur ce type de source, mais ces archives romaines sont extraordinairement bien écrites en latin. Hein, tout de même, une petite difficulté, c'est du latin juridique, mais après tout, j'étais bien armée pour m'y attaquer, étant donné ce que j'avais fait précédemment comme études et comme travaux. Et puis, j'ai été aussi assez vite emportée par cette histoire. Et j'ai pris mes quartiers à l'Archivio di Stato de Rome, où, alors là, c'est la caverne d'Ali Baba pour moi, parce que on a à la fois les documents de la Rhodes, ces énormes liasses qui conservent les procès jugés par un auditeur de la Rhodes durant la même année, sachant que la Rhodes comptait 12 juges ou auditeurs. On a les archives des 30 notaires capitolins, et on a les archives du notaire des banquiers juifs qui note donc toutes les transactions des prêteurs. Tout ça dans la même salle. Une salle magnifique dans l'ancien collège de la Sapienza, à Santivo de la Sapienza, à côté de la place Navone. Donc un très beau site du XVIIIe siècle. Donc c'était des conditions tout à fait idéales pour travailler.
Et puis, on est là, dans sa salle, avec ses archives. Mais en réalité, bien, tous ces documents font voyager beaucoup. Alors, voyager à Rome au XVIe siècle, mais pas seulement, parce qu'il faut remonter le fil, ce qui nous conduit en Espagne.
Très illustre et révérende seigneurie, si les Morisques demandent un délai, ce n'est pas pour être instruits dans la foi catholique, mais pour pouvoir vivre librement dans la secte de Mahomet en attendant que s'offre l'occasion d'un soulèvement. Ils l'espèrent de toute leur force et la croient proche avec une telle certitude qu'ils acceptent avec joie tout ce qu'on leur demande. Tout cela est évident pour qui connaît leur état d'esprit et de plus démontré par la requête qu'ils expriment dans ce mémoire, à savoir que l'Inquisition ne puisse les atteindre. Car il est vrai que l'Inquisition ne les châtie pas et ne les a jamais châtiés parce qu'ils ne sont pas chrétiens, mais bien parce qu'ils sont musulmans. Il leur appartient donc de se soustraire au châtiment, même s'ils ignorent l'espagnol et la doctrine pour l'apprentissage desquelles ils prétendent avoir besoin de temps. Tout ce qu'ils font pour la religion catholique, ils le font contraints et forcés, et en montrant bien qu'il en est ainsi. Et pourtant, ni le Saint-Office, ni les séculiers ne les châtient. Nous ne leur interdisons que les cérémonies musulmanes publiques, ce dont ils ont été amplement informés. Mais leur obstination est telle qu'ils préfèrent être brûlés que d'abandonner ces pratiques. Juan de Ribera, archevêque de Valence.
L'archevêque de Valence qui écrivait au cardinal de Tolède en août 1582. C'est une lecture d'Hubert Gignoux dans le cours de l'histoire, avec ici Isabelle Poutrin, cet intérêt pour ces juifs en Espagne. Vous êtes l'autrice de Convertir les musulmans, Espagne, 1491-1609. Cette question-là nous intéresse aussi parce qu'on trouve les origines de la famille Corcos. Vous nous l'avez dit, ils ont quitté l'Espagne avec un petit pécule, ce qui leur a permis d'être banquiers. Ce statut des juifs espagnols. Et puis cette question de la conversion, on l'entend ici, c'est toujours suspect. On ne sait jamais vraiment la sincérité.
Alors, l'Espagne est un laboratoire des conversions, puisqu'on a d'abord les conversions forcées des juifs à partir de la fin du XIVe siècle, avec des conversions massives. Et puis, après la prise de Grenade par les rois catholiques, la conversion des musulmans en deux temps, de Castille, d'Aragon, bon, je ne vais pas tout retracer ici, mais ce sont des conversions par décret qui portent sur des communautés entières, massives, des dizaines de milliers de personnes. Et en Espagne, s'installe assez vite le préjugé de la pureté de sang qui fait que le fait d'avoir des ancêtres juifs ou musulmans est fait porter Mais au fil des générations, mais quelquefois 5, 6, 8 générations après le premier ancêtre converti, ça fait porter un soupçon d'insincérité. En Italie, rien de tel. En Italie, le pape, à Rome, a une communauté juive à sa main, dont il est l'évêque. Et là, il entend montrer que lui aussi est capable de convertir les juifs, comme le font les jésuites au Japon, ou comme le font les franciscains en Amérique, comme le font les rois d'Espagne et du Portugal sur leur terre, où le pape n'a pas le droit d'ailleurs de regard. Et donc, il entend le faire aussi pour montrer que l'Église catholique est porteuse de la seule vérité face aux protestants. Et être capable de convertir les juifs. Alors, il y a un anti-judaïsme hein, qui est très fort. Alors, chez Luther, Luther contre les juifs et leurs mensonges, et aussi donc contre de la part des catholiques. Ces différentes confessions chrétiennes considèrent que les juifs sont aveugles, n'ont pas voulu reconnaître la vérité du Christ. Et pour cela, j'en viens à ce que nous avions commencé à aborder tout à l'heure, ils sont soumis à un statut juridique particulier. Donc être juif, c'est pas seulement une religion, c'est un statut d'infériorité avec des limitations et des contraintes. Là-dessus, donc, les papes installent un dispositif de conversion à Rome. Alors, on a une maison des catéchumènes pour accueillir ceux qui sont en attente de conversion, leur donner un petit pécule, les endoctriner, etc. On a sous Grégoire XIII, donc le ghetto, qui est en lui-même, avec toutes ses restrictions, une incitation à en sortir pour connaître une vie meilleure quand même. Enfin, toutes ces limitations, elles ont pour objectif aussi la conversion. Et puis, on a également, à partir de Grégoire XIII, des prédications forcées. Ou le samedi, le jour du Shabbat, pour les Juifs, ils doivent se déplacer hors du ghetto et entendre des prédicateurs leur commenter les mêmes passages qu'ils ont entendus à la synagogue le matin, en leur disant qu'ils n'ont rien compris, que le Messie est déjà venu. Et ces prédicateurs sont parfois d'anciens rabbins, comme Andrea del Monte, qui est le rabbin que Montaigne a entendu quand il a voyagé à Rome dans les années 1581. Et Andrea del Monte est un ancien rabbin qui s'appelait Joseph Sarfati, et donc qui est apparenté à la famille Corcos à travers sa femme qui s'est convertie avec lui.
Ouais, parce que les Corcos, ce sont nos héros du jour. Hein. Oui. Ces Corcos-là qui sont les banquiers, c'est eux que vous avez étudiés, Isabelle Poutrin. Nous réfléchissons à ces histoires de famille. Et on va voir, hein, bon, c'est comment c'est une famille, hein, des liens plus ou moins étroits, plus ou moins distendus. Et ici, la religion se mêle, mais ce n'est pas tant la religion qui nous intéresse. Et vous le dites avec justesse, il y a aussi une question de statut. C'est ça, qu'est-ce qu'on est à Rome au XVIe siècle? Avec une autre question, vous êtes joueuse?
Oui.
Bon, bah, ça tombe bien. On va tenter de jouer au pari.
Effectivement, les gens de l'époque pariaient énormément. Et à Rome, on pariait essentiellement sur l'élection des papes et sur la création des cardinaux. Création qui se faisait parfois d'une façon tout à fait inattendue. Alors, il y avait des sortes d'officines de paris dans toutes les villes d'Italie et notamment à Rome. Et on pariait soit qu'un tel serait élu pape, soit qu'un tel serait créé cardinal. Et on a tout lieu de penser que des sommes considérables étaient englouties dans ces paris, puisque quand le pape Sixte Quint a voulu, et d'ailleurs il n'y a pas réussi, mais quand il a voulu interdire les paris, un certain nombre de banques ont fait faillite en Italie.
Et ben voilà, c'est comme ça, il ne faut pas parier. 1975, l'historien Jean Delumeau, spécialiste des religions, avec ici Jean Delumeau, nous avons l'évocation des paris sur les papes. C'est quelque chose d'étonnant ça. On parie beaucoup à Rome au XVIe siècle?
On parie énormément. Alors, Delumeau avec Poliakov, mais Delumeau qui lui a décrit une Rome pratiquement sans juifs, hein, et un peu mon autre patron, mon autre guide dans cette Rome du XVIe siècle. Et Delumeau est parti des avici, qui sont les nouvelles données par des représentants diplomatiques à leurs patrons, et qui donnent énormément d'informations sur ce qui se passe à Rome. Alors, les Italiens et les Romains en particulier parient sur les conclaves, sur les créations de cardinaux, mais aussi sur le sexe des enfants à naître, hein, qui est un gros sujet de pari, et là aussi très important pour les familles, puisque quand on a un garçon, c'est l'héritier. Hein, c'est plus important que de nos jours. Ces paris sur les cardinaux, ils ont été en réalité peu étudiés après Delumeau, mais j'en ai justement trouvé la trace dans une décision de la Rote, où on a un juif, Elia Corcos, qui parie avec un génois, Cesare Zattera sur les créations de cardinaux. Et puis, depuis la parution de ce livre, j'ai trouvé d'autres cas de Paris sur d'autres sujets sur lesquels je communiquerai, puisque c'est en réalité un très gros sujet qui arrivait devant le tribunal de la Rhôde, parce que les paris généraient quantité de litiges. En réalité, c'était des contrats qui étaient vendus par des banquiers qui constituaient des sortes de canyons, de banques, hein, pour alimenter ensuite le remboursement, le paiement des gains. Et les parieurs engageaient des sommes considérables. Donc c'était vraiment des affaires très politiques qui mettaient en mouvement en particulier les banquiers génois et florentins de Rome qui travaillaient avec les papes et qui tiraient eux-mêmes une partie de leurs capitaux du maniement de l'argent des papes.
Ah oui, c'est pas du tout du pari de rue où on dit ouais, tel curé il va avoir une petite promotion, tel cardinal il va devenir pape, allez je parie tant. C'est pas du tout ça. On voit bien que on a des actes signés, c'est beaucoup plus sérieux qu'un simple pari.
C'est la romaine des jeux, hein.
Ah oui, avec des paris sur le prochain pape, c'est un peu comme ça qu'on doit le concevoir quand Jean de Lumeau évoque ses paris sur les papes. C'est qu'on connaît les cardinaux qui potentiellement peuvent devenir papes, et donc il y a des paris sur ces papes-là. Ça passe par les banquiers, par des contrats, et donc ça crée des fonds suffisants pour des investissements, pour les gains bien sûr. Hein. On peut s'enrichir beaucoup avec un pari ?
Sur les gains, on peut perdre beaucoup aussi. Hein, bon. Alors, les conclaves, c'est quand même pas si fréquent, sauf certaines années où je crois en 1590, on a une succession de conclaves avec des papes qui meurent aussitôt. Mais en réalité, l'activité de Paris, elle est constante. Or, les nominations cardinaux sont beaucoup plus fréquentes à peu près chaque année. Hein, le pape nomme un certain nombre de cardinaux. Or là, tout dépend des équilibres à l'intérieur de la cour pontificale, donc c'est prévisible mais quand même un peu aléatoire. Et puis on ne parie pas simplement sur le nom, on parie sur combien de cardinaux le pape va nommer durant ce consistoire ou durant cette année. On parie sur le classement aussi. Enfin, il y a quantité de jeux comme ça, un petit peu comme pour le football actuellement où on se demande à la combientième minute un tel va marquer un but. Vous voyez, il y a des raffinements beaucoup plus important que simplement le nom des futurs porporati.
Les cardinaux vont entrer en conclave, l'un d'eux en sortira pape. Entre deux haies de garde, les 51 princes de l'église ont fait leur entrée dans la chapelle Sixtine, vouée traditionnellement à l'élection du successeur de Saint-Pierre. Des trônes à baldaquin attendent les membres du sacré collège qui vont jurer de garder secrète leurs délibérations. Désormais séparés du monde, les cardinaux deux fois par jour se réuniront dans la chapelle et chaque fois ils termineront leur réunion par un scrutin. Dès le premier jour, des milliers de regards étaient fixés sur la fameuse cheminée du conclave. La fumée serait-elle blanche, signe d'élection, ou noire? Et la fumée parut, on la crut blanche. Mais c'était une fausse alerte. L'intervention des cérémonières lui rendit la couleur qu'elle devait avoir, la couleur foncée. Le monde attend.
Le monde attend en 1958, hein, un conclave dans les actualités françaises. C'est l'élection après la mort de Pie XII. Nous, on fait Pie XII moins 7, ce qui nous fait Pie 5, on arrive au 16e siècle avec ce conclave-là. Isabelle Poutrin, dans Les Convertis du Pape, vous nous montrez aussi cette effervescence qu'est Rome au 16e siècle. Et on le voit bien, c'est une ville qui vibre avec énormément d'échanges et cette densité symbolique. Hein, au moment du conclave, l'élection du pape, c'est pas dans toutes les villes qu'on voit régulièrement passer des cardinaux, des papes. Et puis il y a ces banquiers juifs particulièrement, parce que ce sont eux qui nous intéressent, la famille Corcos, mais pas seulement. Il y a de ça aussi que l'on ressent à travers votre étude sur les convertis du pape. Ça bouillonne à Rome. Hein.
Les choses sont liées en réalité, parce que comme les juifs sont soumis à d'importantes limitations que l'on a énumérées tout à l'heure, il faut bien comprendre que la conversion n'est pas simplement un changement de religion, et d'ailleurs il n'est même pas sûr que ces convertis aient au début une foi ferme, quoiqu'ensuite on puisse changer de conviction en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, on voit ça assez communément, mais ils ne sont s'ils acceptent le baptême, si un individu accepte le baptême, il doit se trouver dans une meilleure position qu'il serait quand il était resté juif. C'est le principe de favor fidei. Donc le néophyte, on appelle ça un néophyte, une nouvelle plante dans l'Église.
C'est l'étymologie, néophyte.
Oui, c'est comme phytosanitaire, ah, etc. Oui. C'est une nouvelle plante que l'Église doit entourer de tous ses soins de peur qu'elle ne soit mangée par les prédateurs. Et donc il est dans une sorte de sas comme ça. Mais ensuite, on peut rester néophyte. Enfin, un converti est appelé néophyte pendant un certain temps après son baptême. Mais disons que c'est la réception du baptême qui marque l'entrée dans une nouvelle vie, l'entrée sous la juridiction de l'Église et qui met fin aux limitations que le nouveau baptisé connaissait quand il était juif. Et donc, ces corcos, on en a plusieurs exemples et on n'aura peut-être pas la possibilité de voir tout le fil de cette saga familiale qui est assez complexe, mais disons que il ne pouvait pas, avant acquérir des biens immobiliers, des maisons, etc., le baptême lui en offre la possibilité. Donc, s'il arrive au baptême avec un certain capital, ce qui est le cas de ses banquiers, comme je pourrais l'expliquer, eh bien, il y a une possibilité d'investir ensuite le capital dans la Rome chrétienne pour acheter des palais, des maisons, des propriétés terriennes. Et c'est ce que m'ont montré les actes notariés. Il y a une possibilité ensuite qui est d'entrer dans la vie financière de la Rome chrétienne. Cette Rome, on l'imagine avec des cardinaux. Mais les cardinaux habitent dans des palais. Les palais supposent des architectes, des constructeurs, des fournisseurs de matériaux, des maçons, etc. Toutes ces œuvres d'art que nous admirons dans les musées, elles sont aussi conçues par des peintres, des architectes, etc. Bon. Et on est dans une ville où on a énormément besoin de capitaux pour financer ces constructions, ces œuvres d'art, ces ouvrages d'art, ces ponts, etc. Or, pour ça, on a besoin de crédits, de finances. Et c'est ce que font ces financiers aussi qui sont bon, les banquiers des papes, mais qui entrent aussi dans un certain nombre d'affaires. Donc, Rome est une ville qui offre pour des gens qui savent compter, qui ont l'expérience du maniement des finances, une ville qui offre d'énormes opportunités.
Ah oui, c'est une ville d'opportunités pour tout le monde, hein, faut bien le dire. Bah, parfois, tout commence, et c'est là aussi où cette histoire des convertis du pape est passionnante, parce que ça tient un peu de choses, parfois, ne serait-ce qu'un pari.
Dimanche, sa sainteté omit de prendre son lait afin de se rendre à la chapelle. L'illustrissime cardinal Farnèse chanta la messe. Lundi, sa sainteté, après l'avoir célébrée, donna la communion à certains des principaux membres de sa famille et ne prit pas non plus son lait. Ce même mardi, après le déjeuner, on fit le baptême d'Elia, l'un des plus riches et des plus importants de ces juifs, avec 4 des siens. Ce juif fréquentait souvent sa sainteté quand celle-ci n'était pas encore pape. Et à cette occasion, elle l'incitait toujours à se faire chrétien, en lui montrant à quel point il se trompait en restant dans l'aveuglement. Au point qu'un jour, il lui dit « Vous trouverez bon que je change de religion quand je vous verrai pape. » Après l'élection de sa sainteté, ils se revirent et le pape lui dit « Elia, nous croyons que le Seigneur nous a placés sur ce saint siège pour le salut de votre âme. » Elia, aussitôt, s'offrit au baptême. Après les cérémonies de ces 3 journées, sa sainteté a recommencé à prendre son lait et se trouvera certainement en meilleure santé.
Nous étions le 8 juin 1566 avec cette conversion d'Elia Corcos, une lecture de Jeanne Delecroix qui a préparé cette émission avec ici ce moment fascinant. Moi, j'adore. Hein, c'est bon, il dit au cardinal... Moi, je me convertirai au christianisme quand vous deviendrez pape. Il devient pape, bon, ben, il se convertit.
Mais oui. Alors, d'abord, on a le pape qui prend son lait, signe que la santé du pape est toujours scrutée dans les avisis, et c'est pas désintéressé, puisqu'on voit que si le pape est en mauvaise santé, on commence à préparer les paris. Hein, bon. Ensuite, les deux avaient des relations financières puisque Elia Korkos, qui était un des notables et banquiers importants de la communauté, prêtait à Michele Ghislieri, qui était un dominicain très ascétique, qui avait une toute petite maisonnée, hein, quelques dizaines de serviteurs par rapport à d'autres, c'était rien du tout, mais néanmoins, il avait besoin d'argent. Et il avait ses relations avec ce banquier. Et finalement, Elia Korkos ne prend pas beaucoup de risques parce que la cote du pape, enfin de Ghislieri, comme cardinal papabilé, était très faible. À une époque, il était même disgracié. Donc, quand Elia Korkos lui dit ça, au fond, je prends comme un sous-entendu lié justement à ses paris. Hein. Bon. Et puis finalement, le conclave se passe en faveur de Michele Ghislieri, qui est élu pape. Et Elia Korkos s'est engagé. Or, une promesse de baptême engage sous peine de châtiment. Elia ne peut pas faire autrement que de s'offrir au baptême, de s'offrir lui-même, mais aussi son fils, l'un de ses fils. Il a d'autres fils qui sont majeurs, mais l'un d'entre eux le suit dans le baptême. Et ce fils lui-même a plusieurs fils qui sont pour certains des tout petits enfants, puisqu'ils sont portés par des palefreniers pontificaux devant pour atteindre les fonts baptismaux. Et donc, c'est tout un ensemble, 5 individus, qui sont baptisés en même temps.
Victoire du pape, hein? Parce que vous nous l'avez dit, Isabelle Poutrin, c'est important pour le pape de montrer qu'il est capable de convertir. Ici, ce sont des juifs. Ah, donc là, c'est toute une famille qui se convertit.
C'est une famille, mais qui est adoptée par la famille pontificale, puisque ce premier Korkos, qui est en réalité le premier de la saga des Korkos en 1566, reçoit le nom de famille du pape, Ghislieri. Et ça, c'est un truc des papes pour intégrer. En réalité, les néophytes recevaient les noms de leurs parrains. Alors, ceux qui étaient baptisés sous patronage de cardinaux prenaient le nom de cardinaux. Ce qui crée une confusion. Le baptême, de toute façon, est un changement de vie totale, donc l'adoption d'un nouveau nom. C'est une rupture qui se veut très complète avec la vie antérieure. Adopter le nom du pape, c'est aussi être admis là dans la famille pontificale. C'est-à-dire que le nouveau Ghislieri, Michele Ghislieri, qui prend vraiment, c'est un double du pape, hein, du point de vue de son nom. Il a donc une place au palais, il est dans ses registres des familiers du pape. Et donc cette adoption lui permet d'être admis dans la société romaine qui n'est pas foncièrement favorable aux juifs, mais selon la volonté des papes, eh bien, la noblesse romaine ouvre ses portes à ces juifs pour peu que il se métamorphose assez rapidement en noble romain. Cette confusion des noms fait que même des historiens se trompent ensuite sur ces Ghislieri, puisque j'ai trouvé dans les archives une Ercilia Ghislieri qui est l'une des petites filles de ce converti. Elle est sans doute née d'ailleurs après la conversion de son grand-père. Donc elle a été catholique de naissance. Mais un érudit de la fin du XIXe siècle en fait une parente du pape, ce qu'elle n'est pas. Elle est en réalité une parente de cet Elia Korkos converti.
Qui prend le nom du pape. C'est vraiment très très fort, hein, ce juif converti qui s'appelle désormais comme le pape avec sa famille. Et c'est là, Isabelle Poutrin, qu'on voit la complexité de ces affaires familiales, parce qu'il faut grimper ou descendre l'arbre généalogique. Ici, cet Elia Korkos, qui se convertit en 1566 et qui prend le nom du pape, a une famille autour de lui, il a des frères, et lui quitte le ghetto une fois qu'il est devenu chrétien, donc il peut aller s'installer ailleurs, il peut être propriétaire. Sa famille, elle, reste dans le ghetto, elle ne se convertit pas tout de suite. Enfin, c'est-à-dire qu'au fil des générations, il y a, on le voit, des stratégies en fait qui se mettent en place pour se convertir ou pas. Alors là, on l'a dit, c'est un pari qui pousse à la conversion. C'est une explication. Mais il y a d'autres motivations de conversion.
Alors, à la génération suivante, donc Elia Korkos a des frères et sœurs. Et évidemment, la famille Korkos est une très grande famille. Hein. On peut avoir jusqu'à 6-7 enfants par génération. Et donc, ils ont des cousins et ils se distinguent par chacun le nom d'un de leurs grands-parents. Enfin, on donne au petit-fils systématiquement le nom de son grand-père, ce qui permet de repérer des lignées. À la génération suivante, un neveu de ce converti, Elia Korkos, qui s'appelle Salomone Korkos, a lui-même un fils, Lazzaro Korkos. Et tout commence en 1581 par la conversion de Lazzaro Korkos. Là, dans une proximité plutôt avec la nouvelle congrégation de l'oratoire qui siège à l'église de la Vallicella, qui se situe dans le centre de Rome, pas très loin du Campo dei Fiori. Et je pense que tout touriste est passé devant cette immense église de la Vallicella. Et il semble que Lazzaro Korkos, à l'âge de 20 ans, se convertisse parce que il a eu des relations, disons, spirituelles. Ça, c'est ce que racontent les sources chrétiennes. Cela dit, les petits-fils de cet Elia Korkos, qui s'appellent désormais Paolo et Francesco Ghislieri, ont le même âge que lui. Eux vivent la vie de nobles romains. Or, ils viennent emprunter à la famille Korkos. Donc, on les retrouve. Il y a des relations entre les uns et les autres. Il n'est pas impossible que, en dehors des considérations spirituelles, Lazzaro ait également vu ses cousins, nobles romains, qui viennent mettre en gage des chaînes en or de 50 écus et se dire qu'au fond, c'était peut-être pas un sort qui était à rejeter. Or, il se convertit et l'année suivante, son père, donc Salomone, prend lui-même le nom de, enfin, reçoit le nom de Ugo Boncompagni, se faisant baptiser à son tour, encore en grande pompe et sous le patronage de Grégoire XIII. Et ils deviennent Gregorio et Ugo Boncompagni, les homonymes du pape Grégoire XIII, qui les protège et qui leur permet de s'intégrer dans la bonne société romaine.
Ah ben c'est exactement le même schéma qui s'était passé auparavant avec Elia Korkos, qui lui avait pris le nom du pape, mais c'était pas le même, c'était Pie V, et là maintenant on est avec Grégoire XIII, mais on retrouve ces noms de papes donnés à ces familles de convertis.
Alors c'est le même schéma, sauf que Elia Korkos n'avait pas pu en profiter, il était mort très vite. Et le pape lui avait d'ailleurs donné le tombeau que lui-même s'était fait fabriquer, à un moment de déprime, sans doute, dans l'église de la Minerva. J'ai pas retrouvé ce tombeau. Ce qui fait que la famille des Ghislieri et l'ascension d'Elia Korkos n'avait pas pu se faire. Mais donc son fils et ses petits-fils étaient restés. Et Paolo Ghislieri est un des personnages que l'on retrouve dans cette histoire. Preuve qu'il y avait quand même des relations entre les branches de la famille. Bon. La conversion de Lazzaro Korkos, ce jeune homme de 20 ans, pense qu'il y a pu y avoir des raisons religieuses. Mais pour son père, dont on nous dit qu'il est très proche de l'oratoire de Philippe Neri, bon, effectivement, il y a ce lien de famille d'abord avec Andrea del Monte, l'ancien rabbin converti Joseph Sarfati, bon, ce premier lien spirituel. Ensuite, donc, le lien avec les Ghislieri, mais surtout, une bulle pontificale qui s'appelle Cupientes Judeos de 1542. Établit que le jeune néophyte, qui donc vient de se faire baptiser, peut recevoir l'héritage de ses parents, du vivant même des parents. Ce qui veut dire que Lazzaro Korkos, quand il devient Gregorio Boncompagni, il reçoit, et ça nous est raconté dans les avisis de Rome, il reçoit le tiers de la fortune de son père, qui était le plus important banquier juif. Bon, ça fait peut-être réfléchir aussi Salomone Korkos. Mais surtout, Lazzaro était le fils unique de Salomone. Et pour le reste, Salomone avait trois filles, mais un seul fils. Voir son unique héritier passer la barrière religieuse. Pour Salomone Korkos, c'est perdre toute espérance d'une succession. Pour un homme du XVIe siècle, qu'il soit juif ou chrétien, la dynastie, la famille, c'est vraiment une valeur fondamentale. Il me semble que, bon, peut-être il a pu, Salomone, être sensible aux promesses spirituelles des oratoriens, aux prédications, etc. Mais la composante affective, familiale, très puissante chez un homme de ce temps, à mon avis, a joué à plein, outre aussi les considérations financières, mais qui ne sont certainement pas dominante dans ce genre de choses. Enfin, après, moi, je n'ai pas d'autobiographie de ces convertis. Mais j'essaye quand même, en fonction de mes connaissances sur ces sociétés, d'essayer de tracer quand même un portrait psychologique ou de deviner leur motivation.
Les convertis du pape, c'est publié au Seuil. On vous entend, Isabelle Poutrin, on saisit la capacité d'analyse à partir des sources, hein, comment il faut tracer l'histoire de cette famille-là. Mais moi, je vous écoute bien. Vous nous avez dit que dans la Sacrée Rote, ce tribunal, il est question de dot non offerte à une petite fille. Il est question d'enlèvement aussi, parce que dans ce panorama de ces convertis du pape, il y a des tensions, c'est-à-dire des gens qui refusent de se convertir et à qui ça pose problème.
Oui, alors, une fois baptisé en 1582, Hugo Bonnecompagnie, on va l'appeler comme ça maintenant, n'a qu'un fils qui n'a pas encore d'enfant. Et il a besoin, mais encore une fois, on retrouve ça aussi chez les favoris des rois d'Espagne, ou bon... Pour avoir une solidité sociale, un homme a besoin de garçons dans sa famille. Bon. Alors, il jette d'abord son dévolu sur 4 de ses neveux, profitant de la mort de son frère Jacob. Et puis, ensuite, son frère Jacob a eu 6 fils et 2 filles, donc ça fait encore plus d'enfants. Et donc, il va petit à petit s'en emparer, malgré sa belle-sœur qui est toujours vivante. Bon. Et puis, à la fin de cette histoire qui se conclut en plusieurs épisodes que le lecteur découvrira au fil des chapitres de ce livre, on arrive à des moyens de plus en plus violents. Pourquoi ? Parce que Hugo est appuyé d'abord par ses mentors, les pères de l'oratoire, et puis par aussi la force publique. Le cardinal protecteur des néophytes et des catéchumènes dispose de sbires, de police, qui sont capables de descendre dans le ghetto, d'enlever des enfants, de les emporter du côté chrétien. On n'a pas le droit d'enlever les enfants des juifs. Ça, c'est ce que disent les théologiens chrétiens depuis le Moyen-Âge. Oui, mais quand ils ont de la famille, quand c'est pour rejoindre une partie de la famille, ça se discute. Bon. Donc, on arrive comme ça à des... Une histoire qui montre les différents aspects de la conversion et toute la palette entre des conversions qui peuvent être pleinement consenties dans les conditions d'une société confessionnelle ou forcées dans le cas de veuves, de femmes à qui on retire tous leurs moyens de vivre et puis de jeunes enfants.
Oui, parce qu'on entend bien ici que ce n'est pas une question de religion. Et si c'est une question de religion, ce n'est pas uniquement une question de religion. On voit que toutes ces considérations financières, pourquoi pas, mais pas seulement non plus, c'est des considérations de stratégie sociale, d'évidence, de voir quand dans une même famille, des cousins ont pris des voies différentes, ou en tout cas, certains ont choisi d'être convertis, les autres cousins, bien sûr, regardent ce qui se passe à côté. Et quant aux femmes, on voit ici ce poids majeur porté sur elles. La dot, vous l'avez dit clairement, Isabelle Poutrin, c'est un peu comme les enfants. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le choix, ces femmes-là. Elles peuvent se convertir elles-mêmes, sachant qu'il y a le mari juste à côté. En fait, c'est une histoire très masculine de ces convertis. Ça s'écrit au féminin ?
Alors, c'est une des originalités de ce livre de traiter de la façon dont plusieurs femmes peuvent résister ou céder aux tentatives de conversion, puisque généralement l'histoire de la conversion se fait au masculin ou avec des études monographiques sur tel ou tel personnage féminin et souvent sous l'angle spirituel. Ici, on a toutes les armes économiques qui permettaient de forcer une femme à se convertir. Alors d'abord, le principe, c'est que quand un homme ou une femme opte pour le baptême, selon ce qu'on appelle le privilège paulin, il ou elle a le droit de rompre son mariage avec son conjoint précédent. L'Église l'admet parce que on ne peut pas cohabiter, on ne peut pas rester marié avec un juif ou un musulman, etc., de peur que le conjoint pas encore chrétien ne recontamine celui qui s'est fait baptiser. Donc, l'Église admet ces séparations et le converti peut épouser quelqu'un d'autre. Sauf que Salomone Corcos, quand il devient Hugo Bonnecompagnie, il n'a pas du tout envie de quitter sa femme à laquelle il est attaché. Alors, elle est séquestrée pendant plusieurs semaines chez une amie des oratoriens, une noble dame, la marquise Rangoni, qui habite à côté de la Vallicella, et dont la maison, à plusieurs reprises, sert de base, comme ça, dans cette histoire, pour être le lieu d'enfermement d'un certain nombre de femmes de la famille qui sont, au fur et à mesure, poussées vers la conversion. Alors, la femme de Hugo Bonnecompagnie, elle cède sans doute voyant aussi que sa fille adolescente a cédé en premier. Une autre femme de la famille, elle, la veuve de Jacob Corcos, résiste. Et au bout de 40 jours, elle est ramenée dans le ghetto. Preuve qu'il pouvait être possible pour une femme de résister si elle espérait, enfin, si elle pouvait compter dans le ghetto sur des appuis suffisants. Ce qui se passe dans l'histoire de cette famille, c'est qu'au fur et à mesure des années, de plus en plus de membres de la parenté sont passés de l'autre côté. Et donc, on arrive en 1599 où le noyau de cette branche des Corcos qui sont restés juifs devient de plus en plus petit. Et c'est là que on a les deux nièces de Hugo Bonnecompagnie qui deviennent veuves à 15 jours d'intervalle, qui perdent leur mari. À ce moment-là, les Bonnecompagnie prennent la tutelle de leurs jeunes enfants. Ces femmes, elles se retrouvent sans revenus. Avec la tutelle est partie aussi l'héritage de ces jeunes enfants. Elles n'ont plus guère d'appui dans le ghetto et donc plus vraiment d'autres alternatives que de franchir le pas à leur tour, d'autant que les attendent donc du côté chrétien, leurs enfants, qui ont été baptisés sans leur consentement, le reste de leur famille. Et donc, elles suivent leur parenté. Et là, on voit la force de la pression économique sur ces femmes.
Les membres de la famille Corcos, qui sont passés de l'autre côté, je reprends votre expression Isabelle Poutrin, qui ont accepté le baptême, sont reçus comment dans la société romaine? Parce que, tel que vous le présentez là, on se dit ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méfiance en se disant... Et ce qu'on a pu évoquer dans le cas de l'Espagne, où il y avait toujours l'idée de dire que ces conversions de musulmans ou de juifs, c'est peut-être pas sincère. Là, vraiment, on retrouve pas ça du tout à Rome.
Alors, il y a un préjugé contre les juifs. Hein. C'est évident dans le procès de Flavia. On se dit, bon, les auditeurs de la Rode disent évidemment que pour une jeune juive, c'est plus difficile de trouver un mari. Alors, il faut lui donner une bonne dot. Bon, il y a un préjugé, mais il n'y a pas de préjugé de pureté de sang. Après, il faut s'imaginer que ces convertis, eh bien, leurs enfants sont mis au collège romain, dans les meilleurs collèges. Ils sont coupés de leurs parents et dans un milieu totalement catholique. Eux-mêmes ont une domesticité chrétienne que j'ai retrouvée grâce à un procès criminel, une affaire de vol dans la famille Bonnecompagnie, qui est assez extraordinaire. Et donc, ils sont entre eux, le cocher sicilien, la nourrice, etc., toute une flopée de domestiques qui sont des bons catholiques. Ils sont sous le regard de la société catholique constamment. Voudraient-ils rester juifs que ce ne serait guère possible? Est-ce que c'est leur intérêt? Sûrement pas. Il y a une inquisition à Rome quand même, donc revenir en arrière serait d'une extrême gravité. Il semble qu'ils se fondent en réalité dans leur nouvelle vie. Et donc oui, la société les accepte et au bout de deux générations ou trois, il n'y a plus guère de souvenirs de leur conversion.
Isabelle Poutrin, vous avez lié une sorte d'intimité avec cette famille-là, une famille de banquiers juifs au XVIe siècle à Rome. Et c'est, j'imagine, pour vous à chaque fois touchant au moment de découvrir dans une archive une mention de nom, de dire c'est comme si on recevait des nouvelles de quelqu'un qu'on connaissait.
Il y a une certaine émotion qui se dégage de cette étude. Cela dit, elle nous apprend plus largement beaucoup de choses sur la mobilité sociale, les stratégies dynastiques, mais aussi la vie matérielle de Rome. Une Rome que j'ai eu beaucoup de plaisir à arpenter pour mesurer aussi quel était l'espace des néophytes, l'espace de la Rome chrétienne et l'espace de la Rome du ghetto.
Voilà, donc c'est aussi un livre qui s'écrit en marchant dans la ville pour ressentir un peu l'univers dans lequel ont évolué ces convertis du pape. Les convertis du pape, une famille de banquiers juifs à Rome au XVIe siècle. C'est publié au Seuil et on l'entend, hein, c'est plusieurs approches pour saisir ce qu'était Rome à ce moment-là. Merci beaucoup à vous.
Merci Xavier Mauduit.
Tiens, celui-ci est libre, son locataire est en prison.
Il a dû avoir envie de changer de vie.
Bah, t'inquiète pas, je vais te trouver un matelas, tout ce qu'il faut, t'as pas besoin de te faire de lui.
Ça ne t'intéresse pas de savoir comment je suis arrivé ici?
Non. Ici, on ne s'étonne de rien, tu sais. Tu pousses la porte, tu entres et puis t'es de la famille. Allez.
Aucune importance.
Aucune importance. Dis-moi, comment t'appelles-tu maintenant?
Baron, tu as peur que ça fasse comique?
Non, on l'a vu mieux.
je vais changer de vie. Enfin, Louis Jouvet changeait de vie dans le film Les Bas-fonds de Jean Renoir en 1936. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Cassandre Puel avec aujourd'hui à la technique Nicolas Bonnet. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Raphaël Lalou, Maël Vincent Randonnier et Mayouen Guizou. Le cours de l'histoire est écouté à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.